Germaine Berton, une meurtrière de 20 ans. Le samedi 20 janvier 1923, Germaine Berton se présente chez Léon Daudet, 31 rue Saint-Guillaume à Paris. Elle se dit étudiante, donne son nom et demande à voir le propriétaire car elle a des révélations à lui faire sur les anarchistes français. Mais Daudet est absent. Peut-être qu'il se trouve dans les locaux de son journal. Germaine se rend donc dans les locaux de l'Action française, 12 rue de Rome. Elle n'a toujours qu'une idée en tête, tuer Léon Daudet. Sur place, elle discute avec Jacques Allard, un secrétaire de rédaction. Elle lui donne une très longue lettre dans laquelle elle expose sa carrière d'anarchiste militante et raconte ses arrestations. Pour appâter Daudet, elle offre de donner des détails importants sur le parti anarchiste sous prétexte de se venger d'une exclusion. Allard transmet aussitôt la lettre à Marius Plateau, chef des Camelots du Roi. Il la reçoit dans un petit bureau du deuxième étage. Là, la jeune femme commente sa lettre. Elle explique que les anarchistes préparent un coup et qu'ils disposent de deux mitrailleuses et de nombreuses grenades. Elle se prétend prête à les dénoncer. Plateau n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer et lui demande de revenir le lundi suivant avec des documents prouvant ses dires. Le lundi 22 janvier au matin, Germaine Berton se rend à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où elle espère bien trouver Léon Daudet. Ce jour-là, en effet, on dit une messe pour le repos de l'âme de Louis XVI, et en bon royaliste, Léon Daudet ne peut manquer d'y assister. Il est bien là, en effet, mais trop entouré pour que Germaine l'approche. En aucun cas, elle ne veut risquer de blesser un innocent. Elle n'est pas une vulgaire meurtrière, mais le bras armé de la vengeance. Alors elle retourne comme convenu rue de Rome. Marius Plateau est absent. Elle attend longtemps. Il arrive enfin et la fait entrer dans son bureau du premier étage. On y accède en passant par une salle réservée aux Camelots du Roi, où se trouve alors un secrétaire de la Ligue, Monsieur Berger, et plusieurs autres personnes. Pendant 20 minutes, ils perçoivent distinctement des éclats de rire stridents. Puis un bruit de chaise, au moment où Plateau se lève pour prendre congé de sa visiteuse. C'est alors que 5 coups de feu résonnent dans les locaux du journal. 4 pour Marius Plateau, 1 pour Germaine Berton qui a retourné l'arme contre elle. Marius Plateau a la force de sortir de son bureau, de traverser en titubant la salle des Camelots du Roi, avant de s'écrouler, mort. Aussitôt, les hommes présents se jettent sur la jeune anarchiste qui vient de se tirer une balle dans la poitrine. Ils la désarment, l'assoient sur une chaise et l'enferment dans le bureau. C'est le branle-bas de combat. On fait venir Cherdelin, procureur de la République, Devise, juge d'instruction, Ducrot, directeur de la police judiciaire, Dumas, directeur du service des renseignements généraux, Faralic, commissaire de police, et le docteur Paul, médecin légiste. Celui-ci tente de ranimer la victime, mais ne peut que constater son décès. Ces messieurs interrogent ensuite la jeune femme sans ménagement. Elle déclare en premier lieu que si elle meurt de sa blessure, ils devront prévenir ses camarades du parti qu'elle a fait son devoir. Ce sont eux qui la font vivre, elle n'a ni domicile ni travail. Elle explique avec difficulté, le sang perlant à ses lèvres, qu'elle a tiré sur Plateau qu'après beaucoup d'hésitation, au dernier moment, quand il ouvrait la porte de son bureau pour lui donner congé. Elle n'a pas de complice. Sur ce, elle s'évanouit et on la transporte à l'hôpital Beaujon. Germaine Berton a raté son suicide. Elle s'est blessée dans la région thoracique gauche. La balle a glissé sur le thorax et a atteint l'artère humérale qui a été suturée. Elle se remet bien et peut donc être interrogée par le juge d'instruction qui se rend à son chevet à l'hôpital. Elle répond volontiers à ses questions, mais elle ne veut pas révéler les noms de ceux qui l'ont armée et aidée à survivre depuis qu'elle vit à Paris. Elle reconnaît tout ce qu'on lui reproche, y compris son intention de tuer Léon Daudet. Elle le tient responsable à travers l'Action française de l'assassinat de Jaurès, mais aussi de l'occupation de la Roure qui sera, elle en est certaine, à l'origine d'une nouvelle guerre contre les Allemands. Depuis 1922, Raymond Poincaré est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Il a décidé que la région allemande minière de la Ruhr serait occupée par les troupes belges et françaises. Cette occupation militaire entend s'opposer par la force au défaut de paiement par les Allemands des indemnités de guerre calculées lors du traité de Versailles. L'objectif est d'obtenir en nature l'équivalent de ces indemnités. Communistes et anarchistes français s'élèvent contre ce qu'ils qualifient d'agression. L'extrême droite s'en réjouit. Et l'extrême droite, c'est Léon Daudet, Charles Maurras et toute la clique de l'Action française. Marius Plateau en fait partie. Les funérailles de Marius Plateau ont lieu le 27 janvier 1923 en l'église de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou. Dès 11h, il y a foule avenue Bosquet, point de réunion choisi pour les délégations et les groupements qui n'ont pas trouvé place dans l'église dont les grilles sont fermées. Le service d'ordre est important, on s'attend à des débordements. Le cercueil est placé sous un somptueux catafalque et recouvert du drapeau tricolore. Autour, des couronnes de fleurs s'amoncellent, envoyées entre autres par la duchesse de Vendôme, la princesse Geneviève d'Orléans et le duc de Nemours. Dans l'assemblée, on croise au premier rang le duc de Luynes, le comte de Pourquenay et le baron Tristan Lambert, qui côtoient le gratin de l'extrême droite française avec Léon Daudet, Charles Maurras et Maurice Barrès. De nombreux membres de l'Action française et d'anciens combattants défilent devant le cercueil. Il est ensuite emporté vers le cimetière de Vaugirard, dans un corbillard tiré par des chevaux caparaçonnés. Le silence au passage du cortège est impressionnant. On déplore un seul abat Daudet. C'est peu compte tenu du climat social et politique extrêmement tendu. Il faut dire qu'en prévision d'incidents, la préfecture de police a organisé un important service d'ordre en déployant la garde républicaine avec des agents placés sur tout le parcours. Si l'assassinat de Marius Plateau soulève l'indignation, Germaine Berton trouve des soutiens, y compris parmi les artistes les plus célèbres. Les surréalistes prennent sa défense. Dans le numéro de février-mars 1923 de la revue Littérature, Louis Aragon soutient son geste, en précisant que face à un groupe qui menace la liberté, un individu peut recourir aux moyens terroristes, en particulier au meurtre, pour sauvegarder au risque de tout perdre ce qui lui paraît, à tort ou à raison, précieux au-delà de tout au monde. Le procès de Germaine Berton s'ouvre le 18 décembre 1923, moins d'un an après son crime. Il est attendu par la France entière et les journaux s'en font le relais dans leurs colonnes, souvent en première page. Une meurtrière de 20 ans, ça n'est pas tous les jours, et une meurtrière politique encore moins. Le journal anarchiste Le Libertaire organise une campagne de solidarité pour soutenir Germaine Berton et plusieurs militants anarchistes connus, comme la journaliste Séverine, assistent au procès. Les débats s'ouvrent dans une salle comble. Les formalités d'usage remplies, Germaine Berton fait son entrée. Grande, droite, debout entre deux gardes municipaux avec lesquels elle semble rivaliser en rigueur militaire, elle sourit. D'un mouvement vif, elle enlève son chapeau cloche, sort un petit miroir et un peigne de son sac et se recoiffe lentement, naturellement, comme si elle était seule dans sa chambre. Ceci fait, elle ôte son manteau et relève la tête. Dans sa simple robe grise à col blanc, elle est déterminée et nullement impressionnée. Elle ressemble à une pensionnaire. Elle a l'air un peu théâtrale tout de même, comme si elle jouait un rôle. Peut-être celui de Charlotte Corday, cette femme elle aussi coupable d'un meurtre politique. D'ailleurs, dans la presse, on compare souvent Germaine Berton à la meurtrière de Marat. Dans le public, par contre, on s'émeut. Cette jeune criminelle semble bien orgueilleuse. Alors qu'elle devrait chercher la pitié, Germaine Berton ne suscite que la méfiance quand elle entre dans le box des accusés. Aussitôt, l'interrogatoire commence. L'accusée se lève. Elle paraît très calme, mais légèrement intimidée. De sa voix bienveillante, le président Pressard l'interroge sur son parcours scolaire, ses mauvaises relations avec sa mère et son arrivée à Paris. Il rappelle qu'elle a été à plusieurs reprises accusée de vol, y compris par ses camarades anarchistes et libertaires. Mais elle dément. Puis elle en arrive aux faits qui lui sont reprochés. Elle confirme sa volonté de tuer Léon Daudet. Elle souhaitait non seulement venger Jean Jaurès, mais aussi mettre un terme aux campagnes de l'Action française qui ne cesse de semer la haine entre les nations et même entre les Français. Elle raconte ensuite toutes les démarches entreprises pour joindre Léon Daudet, son entrevue avec Jacques Allard, puis avec Marius Plateau. Dans le bureau avec lui, elle espère bien que Daudet viendra à passer à sa portée. Elle n'en veut pas à Plateau, mais il lui parle des organisations libertaires avec une telle haine et un tel cynisme que peu à peu, elle conçoit l'idée de le tuer lui. Elle pense encore à partir et à laisser là cet homme qu'elle déteste. Mais voilà qu'il en rajoute encore, qu'il la provoque avec ses propos haineux contre les anarchistes. Enfin, il se lève pour lui ouvrir la porte et lui tourne le dos. Elle sort alors son revolver et tire. Plateau se retourne et elle continue à tirer. Puis elle se rappelle qu'elle est avant tout une anarchiste. Elle ne veut pas avoir affaire à la justice bourgeoise et tente de se suicider en retournant son arme contre elle. C'est alors que les hommes entrent dans le bureau.